Mes bien chers frères et mes bien chères sœurs dans le Christ, j'ai pensé que la meilleure manière de commencer l'enregistrement de cette troisième série de deux cassettes sur la très grande mission du Père me semble être qu'ensemble, vous et moi, qui croyons fermement à la puissance et au bienfait des ministères invisibles, nous en exercions trois immédiatement sur tous nos frères et sœurs de la terre, à savoir le ministère du baptême de gloire, de la création de l'amour, de la joie et de la paix, et le ministère de la confirmation dans la gloire. Alors, si vous le voulez bien, recueillons-nous, et dans le silence de vos cœurs, joignez-vous à moi et à tous ceux qui vont les exercer avec nous éventuellement. Frères, sœurs de la terre, par le mandat reçu du Père et dans l'octroi de son amour, pour la gloire et le bien de ta destinée, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit d'amour, feu de gloire. Frères, sœurs, je crée en ton âme l'amour, la joie et la paix du cœur du Père, en le Fils et en les feux de l'Esprit Saint d'amour, feu d'amour. Frères, sœurs, je te confirme dans la gloire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, par cette onction sainte, reçois en plénitude tous les dons et les fruits de l'Esprit Saint. Mes frères et mes sœurs, vous avez dû reconnaître ce ministère, le deuxième, que j'exerce régulièrement au début de chaque enregistrement, que l'amour et la joie et la paix du cœur du Père soient toujours avec vous. J'ai constaté avec le recul du temps que ce ministère a produit immanquablement deux effets. D'un côté, il nettoie les esprits et les cœurs de ceux et de celles qui sont vraiment appelés à écouter ces audiocassettes. Et d'un autre côté, on a découvert qu'il élimine, paraît-il, une foule de sages et intelligents ou de personnes qui ne sont pas appelées ou ne sont pas prêtes à entendre ces cassettes. Et plusieurs vont dire, « Moi, je ne suis pas capable, et le mot est juste, je ne suis pas capable d'écouter ces cassettes. » Dès les premiers moments, ils sentent comme une incapacité, une inaptitude à poursuivre l'écoute. Il reste évidemment le cas de ceux et celles qui ne sont pas atteints par la grâce de ce ministère et qui écoutent ces cassettes de mauvaise foi, décidés d'avance d'y chercher matière à critique. Alors, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cet enregistrement de deux cassettes intitulées « La mission du Père », dont les numéros sont PH3, 12 et 13. Et on pourrait s'exclamer tous ensemble en chœur, « Enfin, enfin! » Le moment est venu d'enregistrer cette série, 5 ans et quelques mois après les deux autres séries qui ont été enregistrées à l'été de 93. Je tiens à préciser ici que cette nouvelle série s'adresse, comme les deux précédentes, uniquement aux gens vraiment appelés ou initiés, en direct ou en différé, à la mission du Père. Et je rappelle l'avis déjà donné, qu'il est nécessaire de respecter dans l'écoute l'ordre des trois séries, 1, 2 et 3, et de les écouter dans cet ordre, parce que celle-ci, comme la précédente, présuppose la connaissance et l'écoute de l'autre qui précède. Avant de l'oublier, je veux simplement apporter ici une petite précision. Dans la deuxième cassette, au moment où nous exercions le ministère du baptême de gloire, j'ai employé l'expression « les 13 tribus ». Et plusieurs ont été interpellés par ce chiffre. Pourquoi 13? Et je n'avais pas eu le temps de donner la précision. C'est qu'il y a, comme on sait, 12 tribus du peuple de Dieu. Mais quand la mission du Père a été établie, a été proclamée, le Père a constitué une 13e tribu qui regroupe tous ceux et celles qui ont été appelés, ont répondu et vivent la mission du Père. Alors, la 13e tribu a été instituée par le Père pour regrouper ces personnes et a été confiée, cette 13e tribu, à un apôtre des derniers temps. Vous avez en main le plan de cet enseignement. Comme vous voyez, il est assez détaillé et assez long, comprend 19 chapitres. C'est donc dire que nous allons immédiatement nous mettre au travail et nous allons passer à la première partie. Dans cette première partie, je ferai un bref rappel de la mission du Père et donnerai quelques nouvelles brèves. Pour décrire sommairement et rapidement les grandes caractéristiques de la mission du Père, j'aurai le goût de recourir à 8 qualificatifs ou adjectifs qui commencent par la lettre « I ». La mission du Père, c'est vraiment une mission intérieure qui se situe à l'intime de soi. Pour y collaborer, il faut un oui qui vient du cœur et un oui à être missionnaire sans frontières. C'est également une mission invisible qui s'exerce à l'insu des autres, et je devrais même dire en partie, en grande partie pour le moment à notre insu, s'exerce majoritairement sur des personnes que l'on ne voit pas et même que parfois l'on ne connaît pas, et ça produit des résultats non perçus, visiblement, immédiatement. Nous les captons dans la foi. C'est une mission, troisièmement, intense et puissante, car c'est son œuvre. Et elle a l'avantage, cette mission invisible, d'agir directement au fond des êtres. Nous transmettons à Dieu nos désirs, il en fait son agir et lui peut aller agir directement, immédiatement, puissamment, profondément, dans l'âme des personnes concernées. C'est une mission impossible, selon l'expression même de Maman Marie, car c'est une mission qui vise à la fois, imaginons, la conversion rapide et des individus en particulier et du monde en général et de toute l'Église. Il n'y a vraiment que Dieu qui puisse réaliser une telle œuvre et en assurer le succès complet. C'est une mission, cinquièmement, invincible pour les forces adverses, car elle est décisive, finale marque la victoire définitive sur le mal et ses agents. C'est une mission irrésistible, ou presque, car chacun, chacune est ou sera purifié, éclairé, rendu à nouveau libre de choisir. Septièmement, c'est une mission irréfutable, même par nos savants docteurs, nos théologiens, nos sages et intelligents, et, je devrais dire, nos autorités en Église. Car cette mission, de par la volonté du Père, a été d'abord enseignée aux tout-petits, a été accueillie, a été vécue par les simples de cœur et d'esprit devant Dieu, est déjà amplement établie à la grandeur de la terre et confirmée haut la main. Permettez-moi de citer deux paragraphes qui figuraient au chapitre 8 de la première série sur la mission du Père. Maintenant qu'une multitude de simples et petits devant Dieu, à la grandeur du monde, ont accueilli, compris et bien vécu de manière libre, confirmée, c'est devenu irréversible. La partie est en quelque sorte déjà gagnée, puisque c'est à travers eux surtout, les petits et les simples, que le nouveau leadership spirituel s'en vient renouveler l'Église de bas en haut. Les sages et intelligents auront beau s'emporter, fulminer, argumenter, dresser tous les barrages routiers possibles, ce n'est qu'affaire de mois ou de quelques années tout au plus. Ils devront se rendre à l'évidence que la victoire des victoires est au Père, en son Fils, par leur esprit, pour leur gloire et le bonheur de son peuple. Disons en dernier lieu, et on aurait pu tout autant le dire en premier lieu, que cette mission était inattendue. De la part de l'humanité, tant des forces du bien que de celle du mal, même si de toute éternité, elle était prévue par le Père. Son caractère soudain a pris tout le monde, sauf les tout simples et petits devant Dieu, par surprise. Elle a été accueillie par cette très grande mystique, toute simple et éminemment croyante, qui en a été la grande messagère, et par un premier groupe d'une quinzaine de personnes, choisies et appelées nommément par le Seigneur, à l'entourer, la visiter et à accueillir et discerner avec elle dans la foi pure toutes ses révélations privées, ses trésors de grâce inimaginables et inimaginés. Les forces adverses ont eu relativement peu de temps pour s'organiser. Et n'eût été les malheureux parjures, les trahisons graves, les forces du mal n'en auraient rien su. Sans ces tristes Judas, en 1987, cette mission du Père serait demeurée scellée et complètement à l'insu des forces du mal. Donc, insistons à nouveau, la mission du Père est une mission non visible, dans laquelle le Père s'adresse à chacun, chacune, en son âme, au fond de lui-même, d'elle-même, l'interpelle et l'inspire, à être davantage son assistant dans sa livraison d'amour et de miséricorde. Et le mot « assistant » est pris dans les deux sens possibles du mot. « Assistant » dans le sens de témoin attentif de ce que lui fait, et « assistant » dans le sens de participant, un peu comme le médecin résident qui assiste le grand chirurgien. Au sens très, très large et général, et j'insiste sur cette expression, on pourrait dire que la mission du Père a toujours existé. On pourrait même dire qu'elle a précédé celle de Jésus parmi nous, puisque c'est lui, le Père, qui a envoyé Jésus. En une certaine manière, la mission du Père actuelle, au sens maintenant le plus strict et le plus restreint, est une continuité avec ce qu'il a commencé avec la venue de Jésus. En envoyant Jésus, il avait voulu démontrer la puissance de trois choses: l'amour, la miséricorde et l'invisible. Jésus rendait visible le mystère de Dieu invisible. Jésus faisait, pour ainsi dire, atterrir au milieu de nous toute cette puissance de la vie, de l'amour et de la miséricorde divine. Aujourd'hui, la mission du Père au sens strict se veut une reprise, une réaffirmation, une redécouverte et surtout une intensification sans précédent de tout cela. L'Église, comme tout le reste de la société moderne, est hélas de plus en plus accaparée, surtout par le visible, le tangible, le vérifiable. Elle aussi s'en vient, comme le reste du monde, à ne plus croire qu'à ce qu'elle touche et peut analyser et démontrer scientifiquement. La dimension invisible de l'Église s'oublie et s'estompe de plus en plus. On en a peur, on s'en méfie même. Bref, le voir se substitue peu à peu, sans qu'on s'en rende trop compte, au croire. Dieu l'a dit ou le dit, ça va, on veut bien le croire, mais attendons voir que ça se confirme. Alors là, on croira pour vrai. On redoute donc d'entendre parler, tout à coup, des mystères et des ministères invisibles. Alors qu'on vit, c'est un paradoxe, dans un monde qui ne cesse d'inventer des scénarios de fiction, de mondes invisibles, d'aventures mystérieuses, de son propre cru. Dieu, on le redit au credo de Nicée-Constantinople à la messe, est créateur de l'univers visible et invisible. Pourquoi, alors, aurait-on peur de cette partie invisible que lui a bel et bien créée et dont, bien entendu, il a le parfait contrôle? Je devrais normalement redouter mon et notre univers invisible, inventé de toutes pièces et sur lequel nous n'avons aucune prise ou emprise. Mais son univers invisible à lui est beaucoup plus sûr et rassurant à mesure qu'on le découvre ou qu'on l'explore avec lui comme guide. C'est fascinant, c'est pacifiant, c'est vivifiant et c'est sans fin. C'est donc, à mon avis, le premier et grand bienfait de la mission du Père, de revaloriser l'aspect important de l'invisible, mais bien réel, dans tout l'univers de la vie spirituelle, individuelle ou collective et communautaire. Un autre très grand bienfait de la mission du Père, découvrir ou redécouvrir l'amour et la miséricorde divine dans leur gratuité, leur infinité, leur inconditionnalité. Tout cela, on le sait fort bien, s'est affadi, dilué, dénaturé au cours des siècles, sous l'influence des philosophes, des mœurs et coutumes, des conflits, etc. Et même en Église, entre nous, on ne retrouve plus, autant qu'on le devrait, cet amour et cette miséricorde à saveur et odeur divine. L'esprit du monde est venu empoisonner tout cela. On aime, c'est vrai. Oui, mais à condition que, pourvu que, etc. On est miséricordieux. Oui, mais ça dépend à certaines conditions. La mission du Père a reçu un accueil enthousiaste. Et c'est admirable de voir la ferveur avec laquelle les initiés vivent cette mission. Elle atteint donc présentement une multitude de gens à travers le monde. Et elle atteint tout particulièrement ceux et celles qui ont le privilège de voir Jésus, selon sa promesse bien connue, les conduire au Père pour une relation filiale encore plus complète, plus profonde et sans précédent dans leur vie. Citons Matthieu 11, 25, 27, « Tout m'a été remis par mon Père, dit Jésus. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Fin de la citation. C'est comme si le Père, plus que jamais auparavant, manifestait le désir de se confier encore davantage à ses enfants de la terre, de se les associer de plus près, de les aider et encourager à être plus dociles et disponibles envers les deux grandes missions déjà révélées et bien connues, celle de son Fils Jésus et celle de leur Esprit Saint d'amour. La mission du Père ne se substitue à aucune des deux. Au contraire, elle vient renchérir sur elle. Elle y apporte un plus, un surplus ou surplus appréciable à ce moment-ci de l'histoire du monde et de l'Église. Cet excédent ne distrait pas, n'éloigne nullement du Christ Jésus ou de l'Esprit Saint, car le Père nous y reconduit continuellement et nous permet de connaître encore plus à fond Jésus et l'Esprit et de collaborer encore beaucoup plus et intensément à leurs appels et à leurs missions. Maintenant, quelques brèves nouvelles de la très grande mystique. Elle est toujours bien vivante et relativement en bonne santé. Depuis 3 ans, le Père a suspendu ses messages quotidiens destinés à son peuple, captés et écrits par sa messagère, pour leur éventuelle communication en Église renouvelée. Mais le Père continue ses conversations intimes avec celle qu'il a choisie de toute éternité pour lui transmettre, expliquer et expliciter sa très, très grande mission du Père. Elle vit ses journées encore plus présentes au ciel que sur la terre. Je voudrais dire maintenant un mot des 2 derniers thèmes indiqués sur le plan de l'exposé, la garde des petits. Vous savez qu'au début, le Seigneur, le Père, a nommé et précisé qu'il établissait de nombreux et puissants protecteurs pour sa mission. Et en tête de liste, on retrouvait le nom de la Vierge Marie, ensuite de Saint Joseph, des anges, des saints, des élus et des glorifiés. Et il a parlé de la garde des petits. Pour nous expliquer de quoi il s'agit, je vais citer au texte quelques extraits de messages du Père. Message du 30 décembre 86. La garde des petits est constituée des familiers de la grande assemblée des saints. Ils ressemblent à des encensoirs de lumière. Ils soulèvent même la lumière qui les fait vivre. Ce sont des faiseurs de prouesses divines. Ils ont répandu leur sang pour le nom de Dieu, du Dieu de leur espérance. Sacrifiés dans leur corps, ils ont été fauchés avant l'heure. Mais ils sont entrés dans une gloire ineffable, la gloire du Fils de gloire. Et à cause de son nom, ils sont devenus des flammes actives de son action de glorification. Donc, la garde des petits, c'est le regroupement de tous les avortés de tous les temps, à qui le Seigneur a accordé leur corps de gloire et la couronne de martyrs, ainsi que tous les ceux qui ont été martyrisés au tout début de leur vie. Et toute cette population des avortés de tous les temps et de tous les enfants martyrs de tous les temps constitue ce qui s'appelle cette garde des petits. Et je continue une autre citation. Capitaine d'honneur de la classe des petits, ils sont suivis, écoutez bien, de milliards et de centaines de milliards de leurs frères qui portent le diadème du martyr dès la naissance et même avant leur naissance. C'est la tribu de la joie du paradis, la tribu du mystère de Jésus enfant. Un peu plus loin dans ce même message, vous pouvez les appeler fils de la garde. Ils vous entourent comme des foyers de lumière à perte de vue jusqu'à la montée du sommet de la plus haute montagne. Vous êtes donc protégés par la garde de ces petits dont la beauté chorégraphique est d'une exceptionnelle splendeur. Vertu de la gloire, vertu de la vie de l'esprit et du corps enfant du Verbe naissant, ils sont devenus grands en amour, car ce qui est petit aux yeux des hommes est grand aux yeux de Dieu. Compagnons de votre mission, ils seront autour de vous comme une garde, la garde des petits, pour protéger la mission du Père. Et ils sont heureux de partager cet appel. Et passons au dernier point, les âmes du purgatoire. Au moment où le Père, à la suite des parjures, de la trahison, du serment de discrétion au secret du roi, qu'était la mission du Père à ce moment-là, le Père a mis l'embargo sur la formation de d'autres disciples, et pour compenser, il a parlé de cette garde des petits que nous venons d'évoquer, et à la demande de la grande mystique, il a accordé la grâce d'ouvrir le purgatoire et de permettre à ceux qui sont au purgatoire, s'ils le désirent, de venir sur la terre et exercer des ministères à l'intérieur de la mission du Père et ainsi d'activer leur expiation personnelle pour entrer au ciel plus tôt. Et un an après, dans un message du 16 juillet 1988, et je vous en cite un extrait, le Père en parle à nouveau à la grande mystique. « Je veux ce matin te parler des âmes de l'ambassade. » Et c'est ainsi que le Père appelle le purgatoire, c'est ce lieu de passage. Il y a beaucoup moins d'âmes qui y sont pour un peu de temps, selon votre calcul de la terre. Comme je t'avais dit un jour que je donnais une part du purgatoire à faire et à accomplir en ma mission du Père, cela donne un résultat tel que les âmes sont vite revenues en la grâce par les nombreux actes de charité qu'ils donnent aux autres, les humains de la terre, de sorte qu'ils ne sont pas longtemps en ce service et qu'ils sont prêts à venir faire leur entrée en mon ciel de gloire. Et je les reçois avec joie et le grand amour de mon cœur de Père. Vous me les présentez vous-même pour assurer la vie éternelle de ces âmes. Vous les assistez jusqu'au bout à l'entrée définitive dans mon ciel de l'amour. Et c'est ainsi une vie en mouvement de compagnie d'âmes en la mission. Et c'est un grand avantage pour les âmes de faire leur temps de l'expiation en moins de temps. Par le mérite qu'elles acquièrent et par l'amour qu'elles produisent, avec une toute autre connaissance de l'amour de Dieu le Père. Et c'est un feu qui se découvre, qui se développe, qui se reproduit en l'âme par les actes posés et voulus, par les feux et les flammes d'amour acceptés et vécus par les âmes ensemble pour aider les autres à bien mourir, à vouloir ce que Dieu veut pour eux dans l'épreuve, l'accident du feu ou de l'eau ou autre de la terre, que ces âmes de mon ambassade vont secourir. Et c'est une procession de ceux qui vont et de ceux qui viennent pour recevoir la couronne de gloire. Fin de cette citation. Et passons à la deuxième partie de cet enseignement, au chapitre 1, intitulé « Trois réactions diverses et prévues ». À qui et à quoi donc nous attendre dans la mission du Père? Voyons d'abord de la part des autres. De la part des autres, on rencontre trois types de réactions, la réaction fiel, la réaction miel et la réaction ciel. La réaction fiel, elle vient de ceux et celles qui non seulement ne veulent et ne peuvent pas croire en cette mission, pour laquelle d'ailleurs, soit dit en passant, ils n'ont été ni préparés, ni éclairés et ni appelés, mais n'acceptent pas d'être ainsi démunis à ce propos. Et avec mauvaise humeur, amertume, animosité ou même violence, décident de combattre et d'abattre, si possible, tout ce qui concerne cette extraordinaire mission d'amour et de miséricorde du Père, dont ils et elles pourraient d'ailleurs être grands bénéficiaires. Ils vont même jusqu'à s'en prendre avec méchanceté à ceux et celles qui y croient et en vivent. La réaction miel, même si de prime abord elle semble douce, calme, conciliante même, comme le bon miel nous attire par sa couleur et sa saveur, il faut être prudent. Car consciemment ou inconsciemment, elle risque d'être empoisonnée ou piégée. Il y a en effet des hommes et femmes d'Église qui croient, recourent en principe et en pratique à cette approche mielée ou mielleuse, car ils et elles croient que c'est la meilleure tactique pour gagner les autres progressivement, à leurs idées, à leurs œuvres et à leur suite. Et parmi ceux et celles qui ont cette réaction de miel, on en rencontre beaucoup qui cherchent à adapter, à accommoder la mission du Père à leur image et ressemblance, pour n'avoir pas à plonger de trop haut dans la foi et dans l'invisible. Ils ajustent la mission du Père à leur goût, à leur style de vie, de prière, à leur thème de prédication, à leur genre, à leur goût, et réduisent ainsi la mission du Père à un simple groupe de prière, par exemple, à une simple bonne pensée pour les autres, ou à ce qui s'appelle la prière du cœur. La réaction ciel, c'est évidemment la réaction idéale, chrétienne, imprégné des trois indispensables, vérité, charité, liberté. C'est l'incarnation en pratique de ce qu'on appelle la troisième voie, V-O-I-X, V-O-I-E, d'expression en Église. Cette attitude ciel exemplaire, on peut normalement l'attendre et la retrouver chez ceux et celles qui, comme vous, comme nous, croient et vivent déjà la mission du Père. Mais également de la part de chrétiens adultes qui, par ailleurs, ne comprennent pas, ne se sentent pas appelés, mais acceptent quand même de respecter, sans juger, condamner ou mettre en doute, le discernement et l'option de ceux et celles qui y adhèrent d'emblée. Voilà les réactions dont il faut s'attendre de la part des autres. Mais quelles sont les réactions de notre part face à ces trois types, fiel, miel et ciel? Eh bien, quant à nous, si vraiment nous croyons à la mission du Père, mission par excellence d'amour et de miséricorde sans précédent et sans borne, il n'y a qu'une seule attitude à prendre, et peu importe celle des autres, même si elle est fielle ou miel, c'est l'attitude ciel. C'est la seule. Elle est la preuve de ce à quoi l'on obéit et croit. Cette attitude ciel, imprégnée elle-même de son amour et de sa miséricorde à lui, est un puissant témoignage et remplie d'une onction divine toute particulière. Passons dans cette deuxième partie au chapitre 2, intitulé « Une opposition radicale et négligeable à la foi ». Dans la mission du Père, c'est un peu comme ce qui s'est passé pour la mission de l'Esprit-Saint au lendemain de Vatican II. On sait que l'Esprit-Saint a suscité une multitude d'œuvres nouvelles de renouveau dans l'Église. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les prêtres et les évêques ont été les premiers à s'en méfier, parfois même à s'y opposer, de toutes les manières possibles, soit simplement en refusant d'appuyer, de collaborer, ou en allant même jusqu'à la moquerie ou au sarcasme. Et on a constaté que, face à ce renouveau charismatique post-conciliaire, souvent les prêtres et les évêques ont été et seront les derniers à comprendre, à se rallier et à en bénéficier. Eh bien, il faut prévoir la même chose à peu de choses près, concernant la mission du Père. Beaucoup, et j'insiste cependant pour dire que ce n'est pas le cas de tous, car il y a beaucoup de prêtres et il y a dans l'invisible sûrement beaucoup d'évêques qui y croient. Les prêtres et les évêques face à la mission du Père seront fort probablement les premiers à s'en méfier et les derniers à comprendre et à en bénéficier. Pourquoi? Tout simplement pour la même raison habituelle, Rappelons-nous quand Jésus dit « Je te bénis, Père, de l'avoir révélé aux tout-petits » Matthieu 11, 25. « Si vous ne retournez à l'état des enfants, dit Jésus, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux » Matthieu 18, 2, 3. Ou inversement, « Le royaume des cieux ne pourra pas entrer en vous » Celui qui se fera petit comme ce petit enfant-là, voilà le plus grand, Matthieu 18, 4. Or, nous les prêtres et les évêques, à la vérité, nous ne battons pas tous les records d'excellence sur le plan de la petitesse d'âme. On a trop tendance à se vouloir et à se croire grand et fort. Et la mission du Père, au contraire, pour être accueillie et comprise et appréciée, exige d'être des tout-petits devant Dieu. En plus des scientifiques, en qui le langage nouveau est pratiquement incompréhensible, et en plus des sages et intelligents qui bloquent à la réception, à la digestion et à la retransmission, à cause des trois séries de filtres d'allergie et de calcul, il y a deux autres groupes vraiment incapables de capter la saveur et le velouté des vins nouveaux du Seigneur. L'autre groupe, le premier groupe, c'est celui de pour qui le nouveau renouveau continu place en conflit d'intérêts face à leurs pensées et agir actuels. Au fin fond d'eux et d'elles-mêmes, ils n'ont pas d'objection de principe à ce que le Seigneur propose ou exige, mais pour le moment, y adhérer et y donner suite en pratique risque de leur créer, du moins croient-ils, une série de changements, de remous, de questions, de remises en cause auxquelles ils ont franchement peur de faire face. Cela les désécurise, les angoisse même, seulement à y penser. En effet, que va-t-il arriver dans mon diocèse, ma paroisse, ma communauté, mon groupe de prière, mon œuvre, mon institution, si tout à coup, les gens se mettent à devenir de plus en plus spirituellement libres? Où va aller mon emprise, mon autorité? Si les gens deviennent de plus en plus communautaires, donc aptes à s'entraider directement eux-mêmes, est-ce que je serai encore aussi indispensable qu'à l'heure actuelle? Si dans le milieu, les divergences de vues s'expriment plus facilement, qu'adviendra-t-il de notre belle et calme unité? Bref, tous ces gens qui fonctionnent à plein, de bon cœur dans le style 1, si courant à l'heure actuelle, style 1 imprégné veut pas d'esprit de pouvoir, redoute de considérer l'avènement d'un autre style que le leur. Car contempler seulement une telle éventualité leur donne la trouille. Alors, il y a un deuxième groupe qui sont également incapables de bien saisir. Et l'on me fait signe que le temps est écoulé, alors nous reprendrons sur ce deuxième groupe à la face B.